Amen. Béni soit le Seigneur. Et je vous invite à ouvrir la bonne parole de notre Dieu dans l'épître aux Romains, au chapitre 10. Nous allons parler de ce passage si important qui nous montre le lien qu'il y a entre le témoignage, la prédication et la naissance de la foi dans les cœurs. Romains, chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit ? Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Voilà donc, vous voyez, ce passage qui nous parle du témoignage, de l'annonce de l'Évangile, de son importance, avec les grandes conséquences qui en découlent, en particulier pour la naissance et le développement de la véritable foi dans le cœur de ceux qui vont justement entendre le témoignage et la prédication. Et il y est parlé de la beauté des pieds. Alors c'est quelque chose qui peut paraître surprenant, parce qu'en général, dans une personne, quand on regarde la beauté de quelqu'un, on ne regarde pas tellement les pieds en premier. Hein, donc, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit écrit qu'ils sont beaux les yeux, qu'il est beau le visage, qu'il est beau le cœur, la voix, qu'elle est belle la voix, l'intonation de ceux qui annoncent la paix et publient le salut. Salut, mais non, il s'agit des pieds. Il s'agit des pieds. Et en effet, ce sont les pieds qui sont les membres choisis pour représenter l'annonce de l'Évangile. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul reprend dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, vous savez, ce fameux passage où il est question de l'armure du chrétien, il est question de se revêtir des armes du chrétien, et là, parmi ces armes du chrétien, il est marqué « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix ». Donc, vous voyez bien, encore une fois, le lien qu'il y a entre les pieds et l'annonce de l'Évangile. Donc, il nous est parlé d'une nécessité, de cette nécessité que chacun d'entre nous, croyant, témoigne de l'Évangile, l'annonce, et nous allons considérer plusieurs arguments de la parole de Dieu qui expose cette nécessité, qui la renforce, qui la presse, qui la pousse dans notre cœur et dans notre conscience à chacun, et nous pourrons voir successivement sept points importants. Donc, en premier, le premier point, pourquoi ? Eh bien déjà parce qu'il s'agit d'un ordre, hein, ce qu'on vient de lire. « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » C'est un ordre qui, remarquez bien, est aussi important que les autres ordres qui sont dans le contexte de ce passage. Parce qu'il nous a dit « Mettez sur votre tête le casque du salut. Prenez à votre taille la vérité pour ceinture. » Prenez le bouclier de la foi, prenez la cuirasse de, voilà, et prenez l'épée de, voilà, merci notre encyclopédie vivante Henri, voilà, mais remarquez bien, le même ordre dit aussi, mettez à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Alors quand on est chrétien, on comprend bien qu'il faut mettre le casque du salut pour être sauvé, on comprend bien qu'il faut prendre l'épée de la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on comprend bien qu'il est aussi important de mettre à nos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix ? Voyez-vous, c'est un ordre de la même importance pour être chrétien. C'est aussi un ordre général, ça s'adresse à tous les croyants sans exception. Ce n'est pas réservé à certaines catégories d'âge, ce n'est pas réservé à certains qui en auraient plus de loisirs, ce n'est pas réservé non plus à certains qui auraient été spécialement formés pour ça, même si la formation ne fait pas de mal éventuellement. Ce n'est pas réservé non plus à un moment particulier de la vie chrétienne. Voilà. Et puis c'est un ordre qui nous pousse à aller. Ce matin, lorsque vous êtes sorti de chez vous, vous avez mis vos chaussures à vos pieds, c'était pour quoi faire ? C'était pour aller. C'était pour aller au culte. Hein ? C'est pour ça que vous avez mis. Donc on va quelque part quand on met ses chaussures. Hein ? Quand on met ses chaussures à ses pieds, c'est qu'on va quelque part. Et donc ça veut dire que ceux qui connaissent le Dieu vivant, il faut qu'ils aillent vers ceux qui sont perdus. Rappelez-vous que lorsque le Saint-Esprit à la Pentecôte, a été répandu sur les 120 qui étaient dans la chambre haute, il est marqué qu'ils se sont mis à parler des langues des peuples qu'ils ne connaissaient pas. N'est-il pas vrai ? Nous voyons cela. Et ça veut dire que des gens venus de ces pays lointains pour aller à Jérusalem, fêter la Pentecôte donc, ont été étonnés de reconnaître leur propre langue maternelle dans la bouche des disciples, des 120, et d'entendre pour la première fois parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. C'est dans Acte 2, verset 4 et verset 11 qu'on voit cela. Et tout de suite, l'apôtre Pierre a reconnu que c'était la manifestation du Saint-Esprit qui avait été promise par le prophète Joël. Mais il semble que l'apôtre Pierre n'ait pas compris tout de suite que la volonté de Dieu était que la bonne nouvelle soit annoncée à tous les peuples. Voyez-vous ? Et le Saint-Esprit parlait donc d'emblée la langue de ces différents peuples. En quelque sorte, Dieu montrait par là qu'il voulait se révéler donc à eux. Il voulait se révéler à eux dans leur propre langue et dans leur propre culture à chacun. C'est ça qu'il voulait faire. Donc l'esprit missionnaire, c'est donc d'aller vers les peuples et d'aller vers les gens. C'est ça. C'est pas seulement une question de déplacement géographique, mais c'est aussi une question de rapport qui entre le messager et le destinataire du message. C'est pas au destinataire, je dirais, de s'assimiler ou de s'intégrer au peuple ou à l'église d'où vient le messager. Le Saint-Esprit veut leur apporter le message du salut dans leur propre contexte culturel, comme on dirait aujourd'hui, dans leur propre langage, en s'adaptant à leur situation et à leur compréhension. Et c'est ce que nous voulons bien saisir, nous devons bien saisir, si nous voulons gagner les âmes à Christ et leur faire connaître la bonne nouvelle. Amen, amen. Donc, voyons cette nécessité-là. Et puis, il s'agit aussi d'un ordre pressant. Puisque deux fois, il nous a dit que nous devons nous revêtir de toute cette panoplie, se revêtir de toutes les armes de Dieu. Donc, celle-là aussi, verset 11 et verset 13 d'Éphésiens 6, et ceci pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du malin et pour pouvoir gagner des victoires. Et c'est un ordre pressant aussi parce qu'il est vital, c'est une question de vie ou de mort spirituelle. Victor Hugo a écrit la chose suivante. Il arrive sur certaines côtes, qu'un voyageur, cheminant à marée basse sur la grève, loin du rivage, s'aperçoit soudain qu'il marche avec peine. La plage est sous ses pieds comme de la poix. La semelle s'y attache. Ce n'est plus du sable, c'est de la glu. La grève est parfaitement sèche. L'œil du reste ne s'est aperçu de rien. L'homme suit sa route, il n'est pas inquiet. Brusquement, il enfonce. Il regarde ses pieds. Ses pieds ont disparu. Il veut revenir sur ses pas, il retourne en arrière. Il enfonce plus profondément. Alors il reconnaît avec une indicible terreur qu'il s'est engagé dans les sables mouvants. Il appelle, il agite son chapeau ou son mouchoir. Si la grève est déserte, si la terre est trop loin, il est condamné à l'enlisement, à cet épouvantable enterrement, long, infaillible, impossible à retarder ou à hâter, qui dure quelques heures, qui à chaque effort que vous tentez vous entraîne plus bas, qui fait entrer l'homme lentement dans la terre, en lui laissant tout le temps de regarder l'horizon, les campagnes vertes, les fumées des villages dans la plaine, les oiseaux qui volent, le soleil, le ciel. Le misérable hurle, implore, il tord les bras, désespère. Le sable monte, le sable atteint les épaules, le sable atteint le cou. La bouche crie, le sable l'emplit, silence. Les yeux regardent encore, le sable les ferme. Nuit, puis le front décroît, un peu de chevelure frissonne au-dessus du sable, une main sort, troue la surface de la grève, remue et s'agite et disparaît. Sinistre effacement d'un homme. Voilà, ça c'est Victor Hugo. Et cette mort effroyable, cette mort traîtresse, implacable, qui attend le voyageur insouciant, et ça nous rappelle aussi quel sera le sort du pécheur dont les pieds, dont l'être tout entier sont pris dans la boue, dans la fange du péché. Là aussi, chacun le sait, chacun des croyants est convaincu de cette vérité. Après la mort vient le jugement. Et oui, c'est vrai. Et pourtant, combien vont laisser l'âme pécheresse périr sans même l'avertir du danger qu'elle court. Il ne reste qu'un seul moyen de salut aux malheureux qui s'enfoncent. C'est que là, quelqu'un debout sur la terre ferme lui lance une corde. Et puis qu'il puisse s'en saisir et qu'il puisse le tirer de cette situation jusqu'à un rivage hospitalier, jusqu'à un rivage sûr. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai, c'est pour cela que nous nous sentons sans doute concernés devant un monde qui s'enlise chaque jour davantage. Vous savez, les marécages du péché ne diminuent pas en surface dans ce monde à l'heure actuelle. Au contraire, ça ne fait qu'empirer, on le voit. Hein. Donc, il faut que nous puissions là aussi faire nôtre cet ordre qui a été donné à Esdras. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Prends courage et agis. Esdras chapitre 10, verset 4. Il nous faut retirer de ces sables perfides les âmes, l'âme qui s'enlise tout près de nous. Hein. Dieu ne nous demande pas forcément la responsabilité pour ceux qui sont à l'autre bout de la terre, mais déjà ceux qui sont autour de nous déjà. Hein. Donc, et si nous lui demandons sincèrement, il va nous secourir le Seigneur et nous soutenir en cela. Béni soit son nom. Amen. Et puis c'est une nécessité. Voici notre deuxième point maintenant. C'est une nécessité parce que notre passage de base est repris trois fois dans la parole de Dieu. Le texte qu'on a lu au départ, dans Romains chapitre 10 et au verset 14, verset 15, vous le retrouvez dans Ésaïe chapitre 52 au verset 7 où il est marqué « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. » Alors bien sûr, ce passage se réfère à Christ. Il annonce la venue de Christ, 8 siècles à l'avance. Hein. Ésaïe a prophétisé cela, 8 siècles à l'avance. Mais dans Romains 10, verset 15, notre passage de départ, ce passage est appliqué à tous les croyants, à tous les fidèles qui veulent servir le Seigneur. Hein. Et nous retrouvons cette même idée dans le prophète Nahum, au chapitre 2, au verset 1er, où il est écrit « Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux. » Alors là, il y a moins de détails, mais l'idée quand même de joie, l'idée de salut, de paix de Dieu, de bonnes nouvelles est tout aussi présente. Et nous voyons combien ce passage va tout à fait avec les autres. Voilà. Quand une vérité, quand un passage est ainsi repris trois fois dans la parole, eh bien c'est que ça a une importance particulière pour le Seigneur. Et donc nous devons aussi bien prendre garde au message qui y est contenu. Vous savez, cet autre texte du livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 11, au verset 1er, nous dit la chose suivante. « Jette ton pain à la face des eaux, et après bien des jours, tu le retrouveras. Hein » Je voudrais vous lire une petite poésie, qui là aussi veut nous inviter à être de ceux qui annoncent cet évangile et qui répandent cette bénédiction. « Lorsque l'oubli, l'indifférence sur ton chemin sont pour toi sujet de souffrance, jette ton pain. Quand l'égoïsme et le mensonge, serpent du jour, troublent ton cœur et même en songe chassent l'amour, résiste-leur, car à leur rage, Dieu met un frein. Mais toi, tout le long du voyage, jette ton pain. Oui, jette-le à la surface des clairs ruisseaux, et ne crains point, même s'il passe aux grandes eaux. Ne recherche rien pour toi-même, ce serait vain, mais joyeusement, toujours sème, jette ton pain. Oui, jette-le dans ta jeunesse, sous ton ciel bleu, et jette-le dans ta vieillesse, sous l'œil de Dieu. Donne à l'étranger solitaire sur ton chemin, à l'inconnu dans sa misère, jette ton pain. Donne ton cœur, donne ta peine, donne en ce jour, sans te lasser, jette la graine du pur amour. Que ton trésor soit pour ton maître, ton rédempteur. Bientôt tu le verras paraître, lui le Seigneur. En attendant, d'un cœur fidèle jusqu'à la fin, toi, pour chacun, sois un modèle. Jette ton pain. Amen. Amen. Et ceci nous amène à notre troisième argument, troisième grand point. L'annonce de l'évangile est une nécessité à cause de la beauté des pieds du Seigneur Jésus. C'est vrai. Hein, il nous est parlé, donc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, de cette femme nouvellement convertie, délivrée par le Seigneur de puissances mauvaises, de toutes sortes de choses. Et voilà, cette femme avait son cœur qui était rempli d'un amour ardent pour Jésus. Elle lui était tellement reconnaissante de lui apporter cette bonne nouvelle du salut, de la paix de Dieu. Elle avait été libérée de ses passions mauvaises, d'esprit mauvais qui la tenait. Alors comment lui manifester cet amour dans cette circonstance, dans cette situation qui nous est décrite là, où Jésus est dans la maison du pharisien, alors il est couché, alors parce que ça se faisait comme ça, les gens étaient couchés autour d'une table, et puis les pieds étaient vers l'extérieur, et donc elle-même, elle n'était pas invitée, elle n'était pas acceptée dans la maison de ce pharisien, elle était près de l'entrée, et là, près de l'entrée, elle a vu ses pieds, elle a vu les pieds du Seigneur, elle a réfléchi à la valeur de ses pieds qui s'étaient mis en œuvre pour que Christ vienne apporter la bonne nouvelle. Et alors, au verset 38, il nous a expliqué comment elle a mouillé ses pieds de ses larmes, et comment elle les a oints de parfum, et comment elle les a baisés, et comment elle les a essuyés avec ses cheveux. Combien elle a aimé ses pieds. Comme elle en a compris l'importance. Et comme elle a aussi utilisé ensuite ses propres pieds à l'image de Christ, pour aller elle aussi témoigner de ce qu'elle avait réalisé, expérimenté, reçu et entendu du Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez fait cette expérience lorsque vous avez cru? Est-ce que vous aussi, vous avez véritablement reçu le Seigneur de votre cœur, et alors vous avez eu ce désir aussi de reconnaissance envers lui, et puis de partager ce qu'il a accompli pour vous? S'il a vraiment accompli quelque chose de réel, de puissant, alors, eh bien, c'est vrai qu'il nous a sauvés pour faire de nous, de chacun de nous, des témoins dès le départ, dès le début de notre vie chrétienne. Amen. Mais ceci n'est pas réservé seulement aux nouveaux convertis, hein, qui seraient, je dirais, dans le feu de leur premier amour. Au contraire, nous voyons plus loin une femme beaucoup plus avancée dans la connaissance de Christ, c'est Marie. Marie, sœur de Marthe et de Lazare. Et il nous a expliqué dans Jean chapitre 12, au verset 3, qu'elle va prendre un parfum de grand prix qu'elle avait là. Elle va en oindre les pieds de Jésus. Et il nous a expliqué que le prix de parfum était, ce parfum était quelque chose de tellement grand, plus certainement que celui encore de la femme précédente, que la plupart des assistants n'ont pas compris son geste et l'ont jugé sévèrement et l'ont critiqué. Mais voici que cette femme a voulu honorer Jésus et spécialement honorer ses pieds qui avaient servi à lui apporter à elle un évangile de vie et de résurrection. Évidemment, il y a son frère Lazare qui avait été ressuscité peu de temps auparavant et donc cet évangile l'avait sauvé aussi bien que la grande pécheresse précédente. Elle aussi n'a pas voulu oublier les pieds du Seigneur. Et que nous ne puissions pas les oublier non plus. Surtout qu'en plus, pour nous, entre-temps, ces pieds, ils ont été percés. Hein. Rappelons-nous, percés pour nos péchés. Et que nous soyons prêts à honorer Jésus et ses pieds avec ce que nous avons de plus précieux. Surtout, je dirais quelque part, si nous sommes dans la foi depuis un certain temps, peut-être depuis longtemps, eh bien, c'est une raison supplémentaire, cela. D'utiliser nos propres pieds pour porter l'évangile du salut à tous ceux que nous pouvons joindre autour de nous et en allant vers eux. Amen. Amen. Et puis, un quatrième argument encore. L'annonce de l'évangile est une nécessité aussi à cause de ce que nos pieds vont fouler à ce moment-là. Vous avez déjà, dans l'Ancien Testament, une image de cette réalité. Cette réalité que le croyant qui travaille pour Dieu va rencontrer lors de la conquête du pays promis, nous voyons une promesse qui a été dite trois fois de la part de Dieu. Déjà dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, au verset 24, « Tout ce que foulera la plante de votre pied sera à vous. » Vous retrouvez ça dans Josué, chapitre 1, verset 3. « Tout ce que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Et vous trouvez ça encore dans Josué 14, verset 9. « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. » Mais il fallait qu'ils aillent le fouler, ce pays. Hein, donc, et ainsi le Seigneur peut accorder à ceux qui travaillent pour lui des armes en salaire, mais il faut qu'ils se mettent à l'œuvre. Dans Josué 10, verset 24, il est écrit « Mettez vos pieds sur le cou de ces rois. » Alors expliquons un petit peu le contexte. Il y avait eu une grande bataille, enfin une série de batailles même, entre Josué, ceux qui le suivaient d'une part, et puis les rois ennemis qui s'étaient coalisés du sud du pays de Canaan. Et ces rois étaient redoutables, ces rois étaient menaçants, ces rois étaient évidemment remplis de très mauvaises intentions vis-à-vis du peuple d'Israël, vis-à-vis du peuple de Dieu à ce moment-là. Et il y avait de quoi les craindre, mais par le secours du Seigneur, ils ont été vaincus. Et Josué a voulu enseigner une leçon inoubliable à ceux qui étaient avec lui. C'est-à-dire, quand ces rois qui avaient été faits prisonniers, quand ces rois donc ont été sortis après la bataille, il leur a ordonné de s'ils les a fait coucher par terre. Et ensuite, il a fait aligner ses soldats en une grande file et il dit, voilà, vous allez avancer et vous allez poser votre pied sur le cou de ces rois chacun. Vous n'allez pas les tuer. Vous allez poser votre pied sur le cou de ces rois chacun. Et vous vous souviendrez toute votre vie que le Seigneur vous a rendu vainqueur et qu'il a mis vos ennemis sous vos pieds. Et tous ceux qui ont fait ça, je vous garantis, il n'y en a pas un qui a oublié la leçon jusqu'à la fin de sa vie. Il s'en est souvenu toujours de ce souvenir-là. Hein? Et le Seigneur est celui qui veut aussi mettre nos ennemis sous nos pieds. Mais la condition, eh bien, c'est que nous ayons aussi à cœur de marcher pour sa gloire et de porter le salut aux perdus. Vous savez, quelque part, quand on a à cœur d'annoncer l'Évangile pour que les âmes soient sauvées, eh bien, Dieu va nous faire aussi vivre des expériences qu'on n'oubliera pas. Même s'il nous laisse peut-être tâtonner un temps. C'est même sûr qu'il va nous laisser tâtonner un petit peu au départ. Hein? Parce que Dieu a un principe, vous savez. Dieu a un principe, c'est celui de se révéler à ceux qui le cherchent. Dans Actes 17, au verset 29, il est marqué « Il a voulu que les hommes le cherchent, c'est-à-dire cherchent le Seigneur, et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. » Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ça, c'est le principe. C'est le principe, et ça a été mon expérience, ça fait déjà un moment, ça remonte à l'été 1976, si je me souviens bien. Il y en a plusieurs parmi nous qui n'étaient même pas là. Et donc, et voilà, ce qui s'était passé, c'est que j'avais à cœur d'évangéliser. J'avais rencontré le Seigneur peu de temps auparavant, et j'avais à cœur de gagner les âmes à Christ. Mais voilà, j'étais dans une église, je ne connaissais pas le baptême du Saint-Esprit, je ne connaissais pas les dons spirituels, j'avais à cœur quand même de gagner des âmes, et puis voilà que je me suis joint à une œuvre qui s'appelle Opération Mobilisation, et qui est une œuvre d'évangélisation aussi. Ils ont à cœur de faire un travail, mais ils n'utilisent pas non plus le baptême du Saint-Esprit et le don spirituel comme on les connaît maintenant. Et donc, cette année-là, c'était la campagne d'évangélisation dans les villes de la moitié sud de la France de plus de 50 000 habitants. Voilà. Alors, nous avions eu une grande conférence de préparation de plusieurs jours à Zaventem en Belgique, où nous étions plusieurs centaines, très motivés. La majorité, c'est les anglo-saxons. Il y a une petite minorité de Français. Et suite à cela, nous sommes partis à une équipe d'environ 25 en direction de Vichy. C'était notre champ de travail. Nous devions passer là 3 semaines à évangéliser. Alors, 3 semaines à évangéliser, ça voulait dire 6 heures de colportage par jour, hein, de porte à porte par jour. Donc, on proposait à la vente un petit livre, 1 franc à l'époque, c'était encore les francs. Le petit livre, c'est un très bon livre, un très bon message, ça s'appelle « Un seul chemin », donc mon message d'évangélisation, voilà. On mangeait très peu, prix de journée 1,50 € par jour à l'époque, une nuit de prière par semaine, donc une étude biblique tous les matins, une réunion d'évangélisation le soir, et je vous dis, une équipe très motivée, tout le monde très enthousiaste pour faire ce travail. Certains faisaient même 2 nuits de prière. Moi, vous ne faites pas de soucis, moi, j'ai fait qu'une nuit de prière, c'est déjà pas mal pour moi. En tout cas, un très bon état d'esprit, tout pour réussir. Tout pour réussir, et là, je suis surpris par le peu de résultats. Peu de résultats parce qu'une seule personne est venue à une seule réunion du soir, et n'est même pas restée jusqu'au bout sur la durée des 3 semaines. Alors, je me suis dit, bon, peut-être que la France est dure, peut-être, on est d'accord, mais quand même, il y a quand même un problème quelque part. Et puis, à ce moment-là, il y a Mike Evans qui est passé, enfin, Michel Evans, c'est francisé son nom maintenant, c'était le président d'Opération Mobilisation France, et il faisait le tour des différentes villes où il y avait des équipes comme cela pour voir comment ça se passait. Et puis, comme j'avais un véhicule, c'est moi qui devais le convoyer pendant son séjour à Vichy. Du coup, j'ai posé la question, j'ai demandé, je me suis permis, mais est-ce qu'il y a de meilleurs résultats ailleurs qu'ici? Alors, il m'a dit, ben non. Et puis, lui aussi se posait des questions, et puis il se demandait ce qui n'allait pas, quoi. Et là, j'ai compris que je n'étais pas le seul à tâtonner et à me demander comment mieux gagner les âmes à Christ. Puis là, j'ai demandé au Seigneur de conduire les choses, voyez-vous. On tâtonne! Il faut chercher quand même. Donc, et puis c'est comme ça que j'ai été invité à la toute première mission qui se tenait à Besançon. Hein, donc, c'était en 1977, je me souviens bien, donc sous le chapiteau à Planoise avec le frère Kennel. C'est la toute première mission. Et puis quand j'ai vu, quand je suis arrivé là-bas sur place et que j'ai vu l'équipe qu'on avait, je ne vais pas dire l'équipe de bras cassés, comme on dirait, mais enfin bon, c'était la plupart des enfants de chrétiens qui n'étaient pas convertis. La plupart, c'était ça, qui n'avaient pas du tout envie d'aller évangéliser. Et il fallait les tirer, les pousser pour l'évangélisation d'une heure et demie par jour. Mais voilà. Mais quelle surprise! Parce que le soir, plusieurs personnes nouvelles sous le chapiteau, déjà. Déjà ça. Et puis à la fin de la réunion, Voilà, au moment de la prière pour les malades, voilà le frère Canel qui appelle et qui dit, voilà, tous ceux qui veulent voir un miracle, venez devant. Et là, il y avait cette dame qui avait eu un accident, qui avait une chaussure orthopédique avec une jambe plus courte que l'autre de 6 cm. Hein. Donc, et puis il lui a fait enlever les chaussures. Et puis, tout le monde a pu voir, 6 cm, ça se voit la différence. Hein. Donc, et là, il a prié, et la jambe s'est rallongée, et ça a été merveilleux pour moi, parce que c'est le premier miracle que je voyais de mes yeux comme ça. Mais surtout, je vais vous dire, ce qui m'a encore plus touché, vous savez ce que c'est ? C'est de voir, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui étaient venus pour se moquer, c'était dans le fond là, puis quand le frère Canel avait dit aux gens de venir, ben, ils étaient venus voir par curiosité, ils étaient un peu moqueurs, un peu goguenards, vous savez, comme ça. Et puis là, j'ai vu qu'ils étaient saisis, j'ai vu qu'ils étaient touchés. Et j'ai vu qu'après, dans les jours qui ont suivi, plusieurs d'entre eux se sont tournés vers le Seigneur. Et là, j'ai compris, voyez-vous. Et là, je remercie Dieu, parce que c'est pour ça que ce miracle est tout spécialement inoubliable pour moi. Parce que j'en ai vu bien d'autres. Mais celui-là est spécialement inoubliable. Pourquoi ? Parce qu'il m'a montré comment Dieu fait pour toucher les cœurs. Alors, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont vu le miracle ont été touchés. Mais quand même, j'ai quand même vu que le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, c'était quand même bel et bien absolument utile et indispensable pour l'annonce de l'Évangile. Et c'est pour ça, frères et sœurs, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Oui, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile, qui ont à cœur le salut des âmes. Quelles expériences ils vont faire avec Dieu ? Ils vont pouvoir voir des miracles de la part du Seigneur et voir des confirmations à leur témoignage que le Seigneur va aussi leur donner. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir marcher encore sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, comme il dit dans Marc chapitre 16, de la même façon que ce peuple d'Israël avait pu marcher sur le cou de ses rois, donc, et avait pu être vainqueur au nom du Seigneur. Amen. Et le Seigneur, donc, veut aussi nous faire réaliser cela, nous faire saisir cela. Et nous avons des preuves, d'ailleurs, encore plus directes, quelque part, si on peut dire, dans la suite, dans le psaume 18 au verset 39, par exemple, David dit « Il tombe sous mes pieds ». Il parle de ses ennemis. Plus loin, psaume 47 au verset 4, il dit « Il met des nations sous nos pieds ». Et puis ensuite, alors ça, l'apôtre Paul, maintenant, chapitre 16 au verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds ». Alléluia. Merci Seigneur. Et ainsi voyons-nous que le Seigneur veut nous donner l'autorité et la domination sur toute autorité, sur toute opposition, sur toute inimitié. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Et il en sera ainsi tant que nos pieds iront accomplir cette grande œuvre de salut et de témoignage. Et c'est ainsi que nous aurons la victoire par sa puissance et par sa grâce. Amen. Notre cinquième point maintenant, c'est que l'annonce de l'Évangile est une nécessité quand on pense aux inconvénients qu'il y a à ne pas avoir des pieds semblables. Et là, je prends simplement deux exemples. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, il nous est parlé du roi Asa. Le roi Asa a très bien commencé. Vous savez, c'est bien de bien commencer, mais il faut aussi bien finir. Hein. Donc, il avait très bien commencé. Pendant tout un temps, il avait vraiment bien agi, il a fait de bonnes choses. Mais au bout d'un moment, il a fait une faute, une grande faute, sur laquelle je ne m'étends pas. Mais à cause de laquelle le Seigneur a envoyé son serviteur, le prophète Hanani, pour le reprendre. Et voici qu'Hanani est venu avec quelque chose de pas très agréable au premier abord, mais qui lui était salutaire, qui lui était bénéfique quand même. Et le problème, c'est que ce roi, vous savez, on peut être béni de Dieu pendant tout un temps et puis s'enorgueillir dans sa bénédiction si on ne fait pas attention. Et puis voilà ce qui s'était passé pour lui. Il n'a pas accepté qu'Hanani vienne le reprendre de la part du Seigneur de cette manière-là. Il s'est vexé, il s'est mis en colère, et puis il a fait emprisonner le prophète. Voilà ce qu'il a fait. Et voilà que, par conséquent, les pieds du prophète ne vont plus pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Alors, puisque Asa veut empêcher le prophète d'aller annoncer cette parole, ce salut, ce message de Dieu, c'est lui, Asa, qui va être frappé, et le voilà qui va souffrir atrocement des pieds, nous est-il dit. Ça va se produire, et nous voyons qu'il va s'obstiner, malheureusement, Il ne va pas se repentir et il va souffrir ainsi jusqu'à sa fin, jusqu'à sa mort. Alors prenons garde d'être des encouragements pour ceux qui annoncent l'Évangile, pour ceux qui témoignent, et pas des obstacles. Hein. Faisons attention à cela, que nous puissions prendre résolument parti en nous engageant, en engageant nos propres pieds. Et c'est ainsi que nous serons gardés. Et c'est ainsi que nous serons protégés de bien des maladies et de bien des souffrances, et puis aussi de bien des défauts que nous avons en nous. Vous savez, quand on va annoncer l'Évangile et puis qu'on se met à la disposition des autres, vous savez, on est gardé de l'orgueil, hein, parce qu'on est obligé de s'humilier pour s'adapter aux autres. Et ça nous fait du bien, ça. Ça nous fait beaucoup de bien. Hein, donc voilà. Et puis si je continue dans 2 Samuel 9, il est question aussi d'un certain Mephibosheth. Mephibosheth, c'était un petit-fils de Saül. Il se dit qu'il était perclus des pieds suite à un accident dans sa petite enfance. Il avait beaucoup de mal à marcher. Mais malgré tout, sa situation n'était quand même pas si mauvaise que ça. Elle était même enviable. Pourquoi ? Parce qu'il était invité tous les jours à la table du roi David. Et il jouissait d'un héritage dont un autre prenait soin pour lui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Mephibosheth, dans sa situation ? Eh bien, certainement, il aurait dû crier à Dieu, déjà, pour être, d'une part, libéré de son infirmité, et pour pouvoir aussi servir un roi aussi bon et généreux que David l'était à son égard. Il aurait dû se dire, mon grand-père Saül a fait beaucoup de mal à David. Mon père Jonathan n'a pas pris parti pour David quand il aurait dû le faire. Les deux, maintenant, sont morts. Mais il y aura au moins un dans la famille qui servira cet excellent roi qu'est David, et ce sera moi. Voilà ce qu'il aurait dû se dire, hein, certainement. Mais au-delà de cela, qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, au-delà de ça, il s'est tout simplement laissé aller. Tant que ça allait bien, il s'est laissé vivre en profitant de la situation, on le voit, et ça a duré comme ça, je dirais, une vie au crochet de la bénédiction de David, pendant tout un temps, jusqu'au moment, vous savez, le coup de tonnerre dans les ciels bleus, au moment ça arrive, vous savez, d'un seul coup ça tombe. Hein, comme le Covid qui est tombé pof d'un seul coup, hein, personne ne s'attendait à rien. Ben, c'est arrivé, voilà. Ben, ça arrive comme ça les choses. Dans la vie, il y a des choses comme ça qui se produisent. Et c'est pour ça que voilà, ben oui, David est obligé de s'enfuir à cause de la tentative de coup d'état d'Absalom contre lui. Et que fait Mephibosheth alors ? Ben, le problème, c'est qu'il ne fait rien du tout. Il ne fait rien du tout, il ne bouge pas, il ne suit pas David, il aurait pu prendre son âne et puis suivre David, hein, donc, et il prétend ne pas pouvoir le faire, voilà, n'est-il pas infirme, mais cette infirmité lui sert d'alibi, en tout cas c'est comme ça que David a vu la chose, parce que quand il va revenir, Mephibosheth perdra la bénédiction, il perdra pas tous les avantages qu'il avait, mais une grande partie en tout cas, David dans sa grâce va encore lui en laisser un petit peu, mais... Prenons garde, frères et sœurs, de ne pas être des chrétiens perclus des pieds. Hein, c'est-à-dire, voilà, eh bien, on peut avoir une certaine bénédiction, on peut avoir un certain héritage, oui, parce qu'on a des parents chrétiens, c'est un héritage, ça, hein, ou des frères et sœurs, ou des bien-aimés qui prient pour nous. Hein, et ce matin, nous voici rassemblés aussi pour manger à la table de notre roi. Nous nous nourrissons de cette bonne parole, ce bon pain de la parole de Dieu. Et cette situation, ben, on peut y rester pendant tout un temps, parce qu'on n'est pas si mal que ça, c'est même quelque part assez confortable. Mais on n'annonce pas l'Évangile, mais on ne témoigne pas, on ne va pas chercher les âmes perdues. On a confié la gérance de cette question, on dit « Oh ben ça c'est bon pour le pasteur, ou c'est bon pour quelques spécialistes, que sais-je, hein, un serviteur comme Mephibosheth avait confié la gestion de ses affaires aussi à quelqu'un d'autre, et on pense que c'est au serviteur de Dieu de s'en occuper. Mais lorsque va venir l'épreuve, lorsqu'elle va vraiment venir, comment est-ce qu'on va tenir ? Comment est-ce que votre bénédiction va résister dans cette situation ? Est-ce que vous n'allez pas risquer de perdre votre héritage en tout ou en partie ? Peut-être même votre âme. Peut-être même votre âme. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'on est perclus des pieds. Parce que pour une raison ou une autre, on se donne des justifications pour ne pas annoncer l'Évangile, pour ne pas proclamer le salut et le témoignage de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut certainement crier au Seigneur pour être changé et se mettre à l'œuvre pour lui de ce jour. Amen. Et si j'avance encore, je vois une sixième raison pour laquelle l'annonce de l'Évangile est une nécessité. C'est quand on pense aux anciennes cérémonies de purification et de consécration. Alors là, je vais dans le début de la Bible, dans le livre du Lévitique, dans le livre de l'Exode, et il nous est parlé de la consécration des sacrificateurs, des serviteurs de Dieu, telle qu'elle se pratiquait, telle qu'elle avait été ordonnée du temps de Moïse. Donc, c'est dans Lévitique 8, versets 23 et 24, que je ne lis pas maintenant, et dans Exode 29 et au verset 20. Alors, voilà comment ça se passait. D'ailleurs, on faisait le sacrifice, le sacrifice d'expiation, et puis ensuite, le sang de la victime expiatoire était posé, était mis sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil du pied droit du sacrificateur. Après, on prenait de l'huile de consécration et on recouvrait le sang avec l'huile sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil du pied droit. Hein, donc, l'oreille, ça voulait dire qu'on allait écouter la parole de Dieu. Le pouce, ça veut dire qu'on allait agir pour Dieu. Et le pied, ça veut dire qu'on allait marcher là où Dieu veut qu'on aille. Voilà, ça c'était l'idée de la chose. Et ce gros orteil du pied droit, il nous parle de la nécessité que ces serviteurs de Dieu annoncent la parole de Dieu qui leur était confiée, annoncent l'évangile, annoncent le témoignage des œuvres de Dieu. Bon, jusque-là, ça nous paraît logique. Mais voici que dans Lévitique au chapitre 14, se produit quelque chose de tout à fait semblable, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas des sacrificateurs. Il s'agit d'un lépreux qui est purifié de son mal. C'est expliqué du verset 14 au verset 17. Et vous savez que la lèpre, c'est une image du péché. Hein, on sait cela. Et ça représente donc un pécheur qui est purifié par le sang de Christ. Et là, ce n'est pas spécialement un sacrificateur, ce n'est pas spécialement un serviteur de Dieu officiellement établi. Et cependant, ses pieds doivent être consacrés de la même manière. Lui aussi, eh bien, ses pieds doivent servir à annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, spécialement de la grâce de Dieu envers lui, hein, puisqu'il a été guéri, ce lépreux a été guéri, donc il va pour annoncer cela. Et ainsi, pour chacun de nous, si nous avons été rachetés de cette terrible, guéris de cette terrible lèpre du péché par le sang précieux de Christ et couverts donc par l'huile de l'Esprit de Dieu, eh bien, nous sommes aussi dans la même disposition, la même position et cette même nécessité de témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Enfin, en septième, nous voyons que l'annonce de l'Évangile est une nécessité à cause de cette importante, si importante cérémonie du lavement de pieds que nous trouvons dans l'Évangile de Jean au chapitre 13. C'est un texte qui, je pense, est trop peu lu, trop peu médité et trop peu connu, et pourtant il est d'une importance considérable, comme nous le voyons de plusieurs façons, déjà par son introduction. Jean chapitre 13 au verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais ?» Tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds !» Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête !» Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. » Voilà, un texte important par son introduction, par sa conclusion que nous venons de lire là, et puis aussi par l'importance qui est attachée aux pieds. Hein, vous voyez bien que le Seigneur dit à Pierre que ce lavement de pied, c'est une condition pour pouvoir participer à son œuvre et même une condition de salut. Hein, s'il ne fait pas attention, il insiste sur le fait que seuls les pieds ont besoin d'être lavés. Vous voyez que Jésus a fait cela à ses disciples parce que ce sont eux qui sont destinés à utiliser leurs pieds pour être des instruments de témoignage et des instruments de service dans la suite. Et tous ceux qu'ils amèneraient aussi à être des disciples, ben ce serait la même chose pour eux. Donc, Donc, il leur apprend à prendre soin des pieds les uns des autres et à le faire avec humilité. Amen. Vous savez, l'humilité, l'état d'esprit d'humilité, c'est vraiment quelque chose de très important aux yeux de Dieu. Dieu déteste les orgueilleux. Dieu déteste les arrogants parce que nous n'avons aucune raison de nous vanter de quoi que ce soit. N'est-il pas vrai, hein? Est-ce qu'on donne le prix féminin à un stylo bille? Est-ce qu'on va donner le grand prix du festival de Cannes à une bobine de film? Ben non, vous savez bien, hein? Bien sûr que non, parce que ce ne sont que des instruments entre les mains de l'écrivain ou du cinéaste. Pourquoi est-ce que Dieu va se servir de nous? À cause de son nom. Nous sommes des instruments. C'est le nom du Seigneur qui doit être en tête d'affiche. Et autant Dieu déteste l'orgueil, autant il apprécie l'humilité. Il faut s'en rappeler. Je suis avec l'homme contrit et humilié, Ésaïe 57, verset 15. Alors, quelques conseils pour cultiver l'humilité. Que dire? Déjà, en premier, si vous voulez cultiver l'humilité, soyons déjà honnêtes avec nous-mêmes. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Romains 12, verset 3, dit « Je dis à chacun de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. » Amen. Et puis apprendre aussi à féliciter et à encourager les autres. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2, verset 3. Vous savez, on n'est pas tout seul. Dans l'œuvre de Dieu, on n'est pas tout seul. C'est une question de travail d'équipe. On a besoin des frères et sœurs, on a besoin des autres. Et puis n'annoncez pas trop tôt vos futurs succès, ça aussi c'est quelque chose. Dans 1 Roi chapitre 20, il est marqué que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. À l'un de ses élèves, qui se prenait déjà pour un grand prédicateur, mais qui fut lamentable lors de son premier sermon, Charles Spurgeon a déclaré la chose suivante. « Si vous étiez monté en chair de la manière avec laquelle vous en êtes descendu, peut-être en vous seriez-vous descendu de la manière avec laquelle vous y êtes monté. » Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Dieu n'honore que ce qui est fait pour la gloire de son nom. Et je crois qu'il faut qu'on n'oublie jamais cela. Un service avec humilité, alléluia. Un service avec veille aussi, veillant les uns sur les autres, pour nous encourager, nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, donc nous exhorter à l'amour, spécialement à cette bonne œuvre-là. Et puis avec soin et avec affection. Et il nous a dit que si nous agissons ainsi, c'est là qu'est pour nous le bonheur. Reprenez les derniers mots du passage que nous avons lu dans Jean chapitre 13 au verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Alléluia. Pourvu que vous les pratiquiez. Vous êtes heureux. Sachez cela. C'est important. Vous savez, le Seigneur est celui qui veut nous rendre, nous enrichir à tous égards pour toutes sortes de libéralités. Voilà. Nous enrichir à tous égards. Il y a beaucoup de gens qui retiennent le début, mais nous retenons l'ensemble. Si Dieu nous enrichit, c'est pour toutes sortes de libéralités. Et lorsque Dieu voit quelqu'un, par exemple, il est dit que Dieu est celui qui fournit la semence au semeur. C'est dans 2 Corinthiens 9, verset 10. Il ne fournit pas la semence à ceux qui ne sont pas semeurs. Ceux qui ont tendance à garder toute la semence pour eux, est-ce que Dieu va leur donner de la semence supplémentaire? Ben non, il ne leur donnera pas. Dieu fournit de la semence aux semeurs. Donc il va donner, il va accorder tout ce qui est nécessaire. Si vous semez pour le royaume de Dieu, le Seigneur va vous rendre riche. Oui, il va vous rendre riche. Riche en quoi? Ben déjà riche en relations importantes. Il va vous rendre riche en sagesse et en discernement. Il va vous rendre riche en force et en santé. Et puis aussi éventuellement bien matériel. Pourquoi? Parce que nous avons une raison précise et une seule, c'est d'être les instruments entre ses mains et de répandre cette semence que nous avons reçue de la part du Seigneur autour de nous. Voyez-vous? C'est cela, c'est ça le principe. C'est ça que Dieu veut faire. Et c'est ce bonheur, cette joie et cette grâce-là qu'il veut également répandre sur nous. Béni soit son nom. Amen. Alors tout ceci est là pour nous encourager à prendre ou à reprendre peut-être cette résolution de tout cœur aujourd'hui. L'amour de Christ nous presse. Si vous avez été sauvés comme ces deux femmes qui sont venues au pied du Seigneur, rappelez-vous, l'une grande pécheresse, l'autre peut-être moins au départ, mais malgré tout, ayant réalisé ce glorieux salut que le Seigneur a opéré pour elle, cette glorieuse délivrance, et la venant à ses pieds avec reconnaissance, et ensuite marchant dans ses voies aussi avec reconnaissance, alors oui, c'est vrai, eh bien, nous serons dans la bonne disposition. L'amour de Christ nous presse, pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un ordre pressant de la part du Seigneur aussi, quand il est dit « Allez !» par tout le monde, portez la bonne nouvelle à toute la création. Lorsqu'il est dit encore, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Celui qui garde les commandements du Seigneur, c'est celui qui l'aime. Hein? Donc si nous aimons le Seigneur, eh bien, ayons à cœur de lui obéir. Et alors, eh oui, alors il nous a expliqué que le Seigneur nous fera fouler aux pieds toute la puissance de l'adversaire. Alléluia. Et il nous fera faire des expériences merveilleuses de sa part, de sa puissance. Il va nous rendre le témoin et le bénéficiaire de grands miracles de sa part. Alléluia. Et l'annonce de l'Évangile, ça va nous apprendre, oui aussi, à laver les pieds de nos frères et sœurs avec humilité. Cette humilité qui va nous protéger nous-mêmes, qui va nous garder et qui va nous permettre aussi de veiller les uns sur les autres de la bonne façon. Hein. Et on sera gardé de l'orgueil, on sera gardé de la suffisance, on sera gardé d'autant mieux des préjugés, des jugements hâtifs à l'égard des autres. Hein. Et puis on sera d'autant moins facilement surpris par l'adversaire. Hein. On sera gardé de l'endurcissement de cœur encore. Et puis on sera le bénéficiaire de cette béatitude sur laquelle je reviens encore une fois. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Béni soit le Seigneur. C'est sa volonté, c'est son désir pour chacune, pour chacun d'entre nous. Eh bien, engageons-nous, réengageons-nous dans ce témoignage de l'annonce de l'Évangile. Saisissons les occasions de le faire avec le secours du Seigneur. Et quelle bénédiction et quelle approbation le Seigneur va mettre sur cela. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Merci Seigneur, c'est encore toi le même. C'est encore toi le fidèle. C'est encore toi qui soutiens et qui honore ta parole, Jésus. Merci notre Dieu. Jamais tu n'as laissé tomber à terre aucune de tes propres paroles. Elles se sont toujours toutes accomplies, toutes réalisées. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu veux veiller à cette parole pour l'exécuter en faveur de chacune et de chacun, de ceux spécialement qui ont à cœur de mettre à leurs pieds ce zèle que donne l'Évangile de paix, Seigneur. Oui, nous voulons en effet nous revêtir du casque du salut. Nous voulons saisir la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Oui, nous voulons cela, Seigneur, mais nous ne voulons pas oublier ces chaussures du zèle. Merci, Seigneur. Alléluia. Et merci pour les promesses. Merci pour les victoires. Merci pour le secours d'en haut que tu veux encore accorder. Sois glorifié, notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, Jésus. Nous avons plusieurs annonces que je vous rappelle. Donc, la réunion de prière a toujours lieu le mercredi à 16h. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Pour l'instant, c'est toujours comme ça. Prédication en ligne le vendredi à 20h15 sur le site de l'Église. Donc, je vous rappelle aussi que nous avons des activités qui sont programmées pour les jeunes cette semaine, jeudi et vendredi. Jeudi 22, vendredi 23, pour vous renseigner auprès de Jean-Baptiste. Et l'évangélisation dans les villages doit se tenir samedi, donc on a encore des boîtes aux lettres à garnir dans la limite des 10 km, il n'y a pas de problème pour ça. Donc rendez-vous samedi à 14h30 ici pour y participer. Amen, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne jour par jour et moment après moment. Alléluia.